Et les trois mercredis, donc les que nous allons avoir ensemble, nous allons être dans le livre de Zacharie. Le prophète Zacharie, donc c'est la fin de l'Ancien Testament, l'avant-dernier prophète. Et je vous invite à prendre votre Bible pour vous rendre au prophète Zacharie. Alors je lis. Le huitième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes, pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il l'avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Alors, nous voici donc dans ce livre écrit par un homme de Dieu. Il était de la tribu de Lévi, donc il devait être sacrificateur. Et il a été appelé par Dieu à prophétiser sur Israël, sur le peuple juif. C'était à l'époque où Israël était revenu de l'exil. Je fais un très rapide résumé de cette période. C'est que Israël, après le règne du roi Salomon, le fils de David, a été divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a eu une scission en Israël. Le royaume du nord était particulièrement idolâtre, éloigné du Seigneur. Et en 732 avant Jésus-Christ, les Assyriens, l'Empire assyrien, avec Ninive comme capitale, est venu les envahir et les a emmenés en déportation. Le royaume du sud a tenu tant bien que mal, on l'appelait le royaume de Juda, avec Jérusalem, bien sûr, encore. Et ils se sont aussi détournés du Seigneur. Les rois, certains étaient bons, d'autres étaient mauvais. Et puis finalement, Dieu a envoyé les Babyloniens vers 586 avant Jésus-Christ pour envahir Juda avec le roi, le fameux roi Nebuchadnezzar. Hein. Et il a emmené en déportation et tué un certain nombre de Juifs là aussi. Daniel faisait partie de cela. Il a écrit son livre depuis Babylone. Hein. Il a prophétisé même au roi Belshazzar, le prophète Daniel. Et puis Dieu avait dit par Jérémie que ça allait durer 70 ans, le châtiment. Et au bout de 70 ans, effectivement, Daniel a regardé les textes et a dit, mais ça fait 70 ans, Dieu va nous libérer. Ésaïe, bien avant, avait prophétisé qu'il y aurait un roi païen, Cyrus, qui ramènerait les Juifs dans leur pays. Effectivement, la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie à la lettre. Le roi Cyrus de Perse a décrété que les Juifs pouvaient revenir chez eux. Ils ont commencé par reconstruire les murailles sous un homme, est-ce que vous connaissez, qui a fait Néhémie? Esdras était avec lui pour ramener la parole de Dieu, le culte, la fête de Pâques et tout cela. Ils ont reconstruit leur maison, puis après il a fallu rebâtir le temple, parce que c'est ça qui faisait le cœur d'Israël, bien sûr, à Jérusalem. Et ils ont commencé à rebâtir le temple, mais le prophète Agée se plaint de leur manque de motivation et ils ont laissé tomber la construction du temple. C'est Agée qui leur dit, hein, vous vous occupez bien de vos demeures lambrissées, mais vous laissez tomber la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, ils avaient des jolies maisons lambrissées, hein, avec du lambris, du cèdre du Liban, toutes sortes de bois précieux probablement, mais le temple, lui, était encore inachevé, à moitié terminé. Zacharie, il arrive donc après tout ça, il est en Israël, il a fait partie de ceux qui sont revenus, il est fils de Bérékia, on ne sait pas qui c'est, mais Iddo, c'était un prophète, donc il était le petit-fils d'un prophète, donc il était d'une famille qui marchait avec Dieu, qui connaissait bien le Seigneur. Et il va commencer à prophétiser au peuple juif qui s'est endormi spirituellement et qui est rentré au pays, mais un certain nombre ne sont même pas rentrés, ils sont restés à Babylone en disant, bon, finalement j'ai fait ma vie à Babylone, tout va bien, pourquoi je vais rentrer à Israël, c'est à moitié détruit, il faut que je rebâtisse ma maison, je vais repartir de zéro, non. Et vraiment cette histoire, ça me fait penser à aujourd'hui. Il y a plein de juifs qui ne veulent pas rentrer en Israël parce qu'il y a la guerre, la vie est chère, il faut redémarrer à zéro, hein. Vous arrivez là, il faut démarrer en bas, alors qu'ils ont leur belle situation, peut-être en Occident, mais Dieu leur parle aussi à travers le prophète Zacharie. Il leur dit, il faut retourner dans votre pays. Il faut faire attention à la façon dont on interprète et on lit la prophétie de l'Ancien Testament, les prophéties. Ces prophéties s'adressent au peuple de Dieu, Israël. Ça ne s'adresse pas à nous, personnellement, ni même à l'Église. L'Église n'est pas la remplaçante d'Israël. Israël existe toujours et les prophéties sont toujours pour Israël. Alors, nous, ce qu'on peut faire avec ces prophéties, c'est épuiser des leçons spirituelles. C'est-à-dire d'abord découvrir le caractère de Dieu, comment Dieu traite Israël. Mais si on commence à dire, ah oui, alors si Israël, on dit que c'est les États-Unis, alors Dieu veut que les États-Unis... Non, là on part dans les trucs, ou la France, ou je ne sais pas quoi. La France n'est pas le peuple de Dieu, les États-Unis n'est pas le peuple de Dieu. Israël, elle était le peuple de Dieu, et en même temps, une nation. C'est ça qui est particulier avec Israël. Ils avaient un roi, un gouvernement, une terre, ils étaient tous là, à peu près. Tandis qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu, il est éparpillé, et Israël encore plus. Donc attention de ne pas prendre les versets comme ça à la lettre, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse exactement. Non, il faut prendre les leçons spirituelles. Ici, au début, il parle beaucoup de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, l'Éternel des armées. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu est un Dieu militaire, un Dieu de guerre? Eh bien non. C'est une expression Yahvé Sabaoth en hébreu. Qui veut les armées, là, ça désigne pas les armées humaines particulièrement, ça désigne la création. Dans l'Écriture, les étoiles sont appelées, comment? Un autre nom des étoiles? L'armée des cieux. Voilà, ça s'appelle comme ça en hébreu, l'armée des cieux. Et donc, l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des étoiles, l'Éternel qui a créé l'univers, hein? Israël est appelé aussi l'armée du Seigneur. Les anges sont appelés les armées du Seigneur. Toute la terre est appelée l'armée du Seigneur. En fait, toute la création. Dieu, ici, c'est l'Éternel créateur, celui qui a tout créé, qui est à la source de toute chose. Le Seigneur de l'univers, le Dieu tout-puissant. Voilà ce que ça veut dire l'Éternel des armées ici. Et Zacharie va commencer à prophétiser. La prophétie peut avoir deux thèmes. Soit elle est là pour exhorter, avertir le peuple sur le présent, soit elle annonce le futur. Et Zacharie, dans son livre, a les deux. Il a des exhortations pour le présent et puis il annonce, parle beaucoup du Messie et du règne messianique. C'est ça qui sera intéressant aussi. Il dit « Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. » C'est un thème important. La foi revient à Dieu. La foi vient à Dieu et elle revient. Quand on quitte Dieu, on est dans l'incrédulité, on n'est plus dans la foi. La foi, elle va toujours, elle s'approche de Dieu le plus possible. Et plus on s'approche de Dieu, plus notre foi est grande parce que Dieu est grand. Et ici, ils avaient besoin de revenir au Seigneur, pas simplement de revenir dans leur terre promise, ils avaient besoin de revenir à Dieu d'abord. Et dans beaucoup de choses de notre vie, c'est une leçon spirituelle aussi, avant de régler tous les problèmes de notre existence, il faut commencer par revenir à Dieu. Admettons qu'on ait des problèmes de couple, qu'on ait des problèmes de travail, des problèmes de relations, des problèmes d'argent, peu importe les problèmes qu'on a. Il est probable que nos problèmes viennent d'une désobéissance ou d'un quelque chose qu'on n'a pas compris sur la foi. Et il faut commencer par revenir à Dieu. Et quand on revient à Dieu, Dieu commence à régler les problèmes, à nous donner la sagesse, à nous donner la bonne attitude. Quand on fuit Dieu, c'est qu'on est dans l'incrédulité. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont péché? Ils se sont cachés. Au lieu de venir au Seigneur en disant, Seigneur, je crois qu'on a fait une bourde là, je crois qu'on a désobéi. Hein? Non, ils l'ont fui, ils se sont cachés. Et nous, est-ce qu'on n'est pas pareil quand on pêche? Ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Mais s'il y a une personne qu'il faut aller voir quand on a péché, c'est le Seigneur. Parce qu'il est compatissant, miséricordieux. Il est juste et saint. Mais quand on revient à lui, il revient à nous. Quand on s'éloigne, on se refroidit. Et on ne peut pas être pardonné si on ne demande pas pardon au Seigneur. Confessez vos péchés, dit la Bible. Il dit, ne soyez pas comme vos pères. Hein. Les premiers prophètes leur avaient dit, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions, mais ils n'écoutèrent pas. Ici, le peuple de Dieu, Israël, avait entendu la voix des prophètes plusieurs fois. Longtemps, Dieu avait dit, revenez, ne soyez pas idolâtres. Hein. Leur péché principal, c'était l'idolâtrie. Ils prenaient les dieux des pays alentours et ils allaient vers tous les dieux possibles. Et finalement, le jugement est venu après bien des années. Hein. Dieu a été très patient, mais le jugement est tombé tel que Dieu l'avait dit. Et ça montre une chose du caractère de Dieu, c'est que les promesses de Dieu sont absolument vraies et qu'il faut craindre Dieu. Parce que quand on désobéit, Dieu est patient. Dieu nous appelle à revenir, à se repentir. Mais il y a un jour où ça tombe, où le châtiment tombe. Ici, c'était un châtiment parce que nous allons voir que Dieu dit, je t'aime toujours, je suis toujours, tu es toujours à moi, tu es mon peuple. C'est quand on est chrétien, on appartient au Seigneur, on est sauvé, on est un enfant de Dieu. On ne peut plus perdre ce lien, on ne peut plus être séparé de Dieu. Par contre, on peut être châtié. Hein, c'est l'Épître aux Hébreux hein, qui dit que on peut être châtié, c'est-à-dire corrigé, littéralement, hein, par Dieu. Et Dieu envoie des corrections pour nous ramener à lui et nous amener à l'obéissance. Il dit, hein, les prophètes sont morts, ils ne sont plus là pour vous parler encore, mais les paroles de Dieu se sont accomplies à la lettre. Vous avez bien été en captivité 70 ans. Les armées païennes sont venues vous envahir. Je vous l'avais dit, c'était déjà dit dans le Deutéronome. Vous vous rendez compte, au temps de Moïse, il avait déjà annoncé ça. Quand vous allez vous éloigner, j'enverrai un peuple qui viendra vous emmener en captivité. Et c'est arrivé des siècles plus tard, hein, tel que Dieu l'avait dit. Maintenant, nous entrons au verset 7, la première vision de Zacharie, le 24e jour du 11e mois, le mois de Shébat, la deuxième année de Darius. C'est ça qui est particulier avec la parole de Dieu, la Bible, c'est qu'elle donne des dates. C'est comme ça qu'on donnait une date à l'époque, hein. On disait telle année de tel roi. La Bible n'est pas un livre de légendes, d'histoires, de fables. Les fables n'ont pas de date, n'ont pas de repères géographiques où il était une fois dans un beau pays, hein. Un pays extraordinaire, ou je ne sais pas, mais là, c'est le 24e jour du 11e mois de la deuxième année. C'est précis. Zacharie sait quand il a eu cette vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi des myrtes. Les myrtes, ce sont des arbres, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves ou alezans, et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité. Mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem, crie de nouveau et dit : Ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Voilà une magnifique vision de consolation parce que le peuple était découragé par le châtiment. Ils se sont dit, voilà, les grands empires se succèdent, on voit Babylone, après c'est les Mèdes et les Perses, et nous, on est un tout petit peuple, le peuple juif, on n'est rien, on est écrasé à chaque fois. Est-ce que le Seigneur va s'acharner sur nous encore longtemps? Et Dieu dit, par Zacharie, qui crie hein, dans les rues, j'imagine, il est allé dans les rues pour le crier, le Seigneur choisira encore Jérusalem. C'est une magnifique phrase, hein, je te choisirai encore. C'est-à-dire, même si pendant un temps je t'ai mis de côté, je t'ai châtié, c'est encore vers toi que je vais. C'est comme s'il disait, hein, si je devais recommencer à zéro, ben c'est encore les Juifs, Israël, Abraham que je choisirais. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Israël? Parce que c'est comme ça, c'est son amour, c'est sa grâce, son choix. C'est aussi parce que c'est un petit peuple et à travers ce petit peuple, Dieu fait des choses extraordinaires. Il voit un homme parmi des chevaux. Qui est cet homme, si vous avez lu avec moi? Comment il est appelé? Oui, et ensuite, qui est cet homme? Non, presque. L'ange de l'Éternel. Hein? Au début, il dit, je vis un homme sur un cheval. Et puis après, il dit, cet homme, c'est l'ange de l'Éternel. Hein? Verset 11, ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Qui est l'ange de l'Éternel? C'est une expression très particulière hein, dans l'Ancien Testament qui désigne Dieu qui se manifeste d'une façon visible. L'Éternel est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu, il ne peut le voir, il est esprit. Mais déjà dans l'Ancien Testament, il s'est révélé physiquement. Abraham a pu le voir, les parents de Gédéon ont pu le voir, et chaque fois il dit c'est l'ange de l'Éternel, il le voit, il voit une sorte d'être humain, et puis il l'appelle Dieu, ils disent j'ai vu Dieu. Et nous pensons que c'est le Fils de Dieu, hein, avant qu'il soit incarné en la personne de Jésus. Donc c'est Dieu lui-même qui se manifeste, et qui est là avec ses chevaux, monté sur un cheval. Ça fait penser à quel livre de la Bible? L'Apocalypse, hein? Jésus vient monter sur un cheval aussi. Hein? Le cheval rouge, c'est le cheval de la guerre. Hein? C'est le cheval du combat. Le cheval blanc, c'est le cheval de la victoire. Et le cheval fauve ou alezan, c'est un cheval brun. Bon, il n'a rien de spécial. On ne peut pas expliquer tous les détails des visions. Mais ce qui se passe, c'est que ces chevaux sont commandés par l'ange de l'Éternel et ils parcourent la terre pour voir tout ce qui se passe. Ça montre que Dieu gouverne, que Dieu règne, que le Seigneur s'occupe de toute la terre. Il voit tout ce qui se passe. Il ne faut pas penser que Dieu est en vacances et qu'il ne regarde pas les informations, il ne sait pas ce qui se passe sur la terre. Dieu est continuellement en train de régner, de gouverner, mais il laisse les hommes faire un certain nombre de choses pour le moment. Lorsque le Messie reviendra régner, là, tout sera contrôlé parfaitement, 100% par Dieu. Aujourd'hui, il laisse une liberté à l'homme et même au diable. Les anges voient ces nations qui ont conquis et dispersé Israël et Dieu dit à Zacharie et par Zacharie, « Je suis irrité contre ces nations orgueilleuses, verset 15, car elles ont contribué au mal. L'orgueil est toujours puni par Dieu. » Et l'orgueil des nations en particulier. Et il dit, je reviendrai à Jérusalem, parce qu'il avait quitté Jérusalem, la gloire de Dieu avait quitté, il n'y avait plus de la gloire dans le temple, il n'y avait plus de temple, et il dit, je vais revenir. Et au verset 18, il voit quatre cornes, et il dit à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Je dis, que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Et les cornes dans la Bible, c'est un synonyme de force, hein, c'est les cornes du taureau, c'est l'idée de puissance, de force. Et les quatre cornes, on peut penser que c'est les quatre empires dont parle Daniel dans son livre. L'empire babylonien, ensuite perse, ensuite grec, ensuite romain. Ces quatre empires ont écrasé hein, Israël l'un après l'autre hein, et ont s'en emparé des Juifs. Mais Dieu a été là, notamment au temps des Grecs. Il y a eu le réveil des Maccabées, la famille Maccabée. Alors ce n'est pas dans la Bible, c'est dans les livres apocryphes que vous pouvez lire le livre des Maccabées. C'est un livre qui est intéressant vraiment au point de vue historique. Parce qu'il y a eu une révolte des Juifs, ils étaient sous domination des Grecs, qui avaient souillé le temple par un cochon, etc. Ils avaient fait toute une abomination dans le temple. Et la famille des Maccabées s'est révoltée et ont chassé pendant un certain temps les Grecs. Puis après, les Romains sont venus et ils étaient à nouveau sous le joug des Romains. Et au temps de Jésus, ils étaient sous le joug romain. Mais là, il dit, il y a des forgerons, on ne sait pas qui c'est, qui vont chasser ces nations. Et en fait, les uns après les autres, ils vont se chasser aussi. Hein. Les Grecs vont chasser les Perses, etc. Les Romains vont chasser les Grecs. Et Israël va avoir un peu de repos pendant un peu de temps. Et ce repos, il faut bien l'utiliser. Vous savez, quand on a des guerres tout le temps, on n'a pas le temps de se reposer quand on est en conflit, quand on est en bataille. Et puis, il y a le repos, là, il faut l'utiliser au maximum. On arrive à la période des vacances. Et si on a quelques jours de repos, il faut en profiter, comme le disait notre frère, pour passer du temps avec le Seigneur, pour se ressourcer avec Dieu, pour reprendre le contact, le fil, le plus possible, et ne pas faire comme les Israélites là qui s'étaient endormis spirituellement. Chapitre 2, il a une deuxième vision. Il voit un homme qui a dans la main un cordeau pour mesurer. Cette époque-là, on mesurait donc avec un cordeau, toutes sortes de choses. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Alors c'est mystérieux un peu pourquoi cet homme va-t-il mesurer Jérusalem. Mais dans la Bible, le fait de mesurer quelque chose, ça symbolise que cela vous appartient. Quand vous le mesurez, c'est que c'est à vous. Et donc, Dieu envoie quelqu'un pour mesurer Jérusalem, pour dire, Jérusalem est à moi. Jérusalem a été foulée par les nations, hein? Puisque les nations ont pris Jérusalem plusieurs fois, mais il dit maintenant je vais reprendre Jérusalem, je vais la mesurer, et elle sera à nouveau à moi. Ce sera la ville de l'Éternel. Ce que ça nous apprend sur Dieu, c'est sa fidélité extraordinaire, sa patience. Le Seigneur est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas son œuvre, même si pendant un temps il y a la désobéissance de ses enfants. Il nous cherche, il nous appelle, il nous châtie parfois quand il le faut, mais il nous rappelle, il nous reprend. Il ne laisse jamais le mal nous dominer. C'est vraiment une grâce et on peut dire merci Seigneur parce que tu nous gardes. Si on était livré à soi-même, on ferait vraiment n'importe quoi. C'est grâce à Dieu qu'on tient debout, hein. Que celui qui est debout prenne garde de tomber, dit la Bible. Et l'ange qui me parlait s'avança et un autre ange vint à sa rencontre. On voit le rôle des anges dans l'Ancien Testament, qui est beaucoup plus faible dans le Nouveau, bien qu'ils soient là aussi, hein, bien sûr, pour aider le Seigneur Jésus, pour délivrer Pierre de la prison. Mais là, les anges ont un rôle dans la prophétie parce que ce sont eux qui sont les intermédiaires, hein, avec le prophète et qui lui expliquent les choses. On retrouve ça dans l'Apocalypse, où Jean parle aussi avec un ange, et à un moment il veut même l'adorer, et l'ange dit, non, non, ne m'adore pas, hein? On n'adore que Dieu. Un autre ange, verset 4 du chapitre 2, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Que dit cette vision, que dit ce passage? C'est que il dit fuyez du pays du septentrion. Le septentrion, c'est le nord. Le nord, c'est Babylone, hein, l'Irak. Fuyez Babylone, ne restez pas à Babylone. Maintenant que Jérusalem est une ville ouverte, maintenant qu'elle n'est plus sous la domination des païens, revenez à Jérusalem, revenez habiter dans votre pays, c'est votre terre. Et pourquoi il est obligé de dire ça? Parce qu'il ne voulait pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour le chrétien, est-ce qu'il y a une leçon spirituelle avec cela? Qu'est-ce que ça peut être pour nous, Babylone? Babylone, ça peut être ce que Jean appelle le monde, hein, dans ses épîtres. Le monde, c'est-à-dire, c'est cette façon de vivre sans Dieu, pour le plaisir personnel, par égoïsme, par orgueil, matérialiste, ne pas penser au Seigneur, ne pas penser aux autres, ne pas penser aux frères et sœurs. C'est ça le monde, c'est un style de vie qui désobéit à Dieu, qui vit sans Dieu ou en rébellion contre Dieu. Et il faut quitter le monde. Hein. Voilà. On ne doit pas quitter Paris, on ne doit pas quitter la terre pour l'instant, mais on doit quitter ce mode de vie mondain, charnel. Et autant les Israélites avaient du mal à quitter Babylone parce qu'ils étaient bien là. Et Babylone, c'était une grande capitale, puissante, riche, moderne. Il y avait peut-être un peu de technologie. Alors que Jérusalem, c'était un trou, hein, à nouveau, parce qu'ils avaient été démolis. Ils avaient reconstruit vaguement les murailles avec Néhémie, mais il ne se passait pas grand-chose. Il fallait vraiment un esprit de sacrifice. Il fallait l'amour pour Jérusalem. Il fallait l'amour pour Dieu pour y aller. Et pourtant, ils sont allés. Et nous, en tant que chrétiens, on doit être prêts à renoncer parfois à un certain confort matérialiste pour suivre le Seigneur. Quand on est missionnaire, par exemple, parfois on doit quitter son pays occidental pour aller dans un pays qui n'est pas occidental et avoir un autre mode de vie complètement différent. Vous n'avez pas votre famille, vos amis, votre maison, votre confort. Vous devez tout recommencer à zéro. Mais Dieu nous appelle à être comme ça, à avoir cet esprit-là, à quitter l'esprit de ce monde et être dans l'esprit du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur aime là? Quel est son amour ici, dans ce qu'on a lu? La prunelle de son œil, c'est qui? Et en particulier, Israël et en particulier Jérusalem, hein, la fille de Sion. Jérusalem représente hein, Israël, c'est la capitale, c'est vraiment la ville de David. Et il dit, celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Hein? La prunelle de l'œil, combien c'est précieux. C'est très fragile et très précieux, la prunelle de l'œil. Et Dieu dit, celui qui touche au peuple juif, hein, c'est comme s'il touchait mon œil. Est-ce que vous arrivez à toucher votre œil? Hein, on a un réflexe, on ne peut pas. Et on ne peut pas toucher à Israël sans que Dieu se lève. Et Dieu dit, n'ayez pas peur de ces empires. Je serai, moi, votre muraille. Bien sûr, ils avaient déjà construit une muraille avec Néhémie, hein, en pierre. Mais il dit, il faut plus qu'une muraille en pierre, il faut Dieu. Et c'est pareil dans notre vie. On a des murailles dans notre vie qu'on s'est construites. Des protections, on a des assurances, on a des airbags dans les voitures, on a plein de choses. Mais ce dont on a vraiment besoin, qui nous protège plus que tout, c'est la muraille de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui nous protège du mal, des attaques du diable, des flèches du diable. Hein. Il continue, chapitre 2, verset 10. « Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. » Alors là, on part dans la prophétie messianique. Hein. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel car il s'est réveillé de sa demeure sainte. C'est le seul endroit où il est dit terre sainte hein, dans la Bible. On l'emploie souvent. Hein. Est-ce que vous êtes allé en terre sainte pour dire en Israël? Eh bien, ça se trouve ici, c'est la seule fois, et Dieu dit, je me suis réveillé. Maintenant, Israël va redevenir le centre, hein, va redevenir le peuple de Dieu avec sa gloire passée. Le temple va être rebâti. Et puis il dit dans le futur, des nations hein, s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, verset 11. Et nous en sommes là, hein, au bénéfice, nous sommes des nations, nous sommes des non-juifs qui avons cru au Seigneur. Et puis dans le règne messianique, il y aura encore Jérusalem qui sera le centre où le Messie régnera dans le futur. Et les nations viendront à Jérusalem adorer le Seigneur. Nous avons juste 5 minutes pour voir le début du chapitre 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Attention, ne confondez pas avec l'aide de Moïse. Hein. Là, c'est un autre, bien plus tard, Josué, qui est le souverain sacrificateur, le grand prêtre d'Israël. Debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan !» Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? D'abord, j'aimerais souligner, c'est l'Éternel parle à l'Éternel. Vous avez remarqué, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Hein, comme si c'était une autre personne. C'est en fait probablement le Fils qui dit à Satan, que le Père te réprime. Hein. Voilà. C'est l'ange de l'Éternel, l'Éternel. Mais ici, Satan joue toujours son rôle. C'est l'accusateur, le diable, hein, diabolos, l'accusateur. Pourquoi est-ce qu'il accuse Josué, le souverain sacrificateur ? Parce que cet homme est central. C'est lui qui va rétablir le culte au temple. C'est lui qui va être le représentant de Dieu hein, en Israël. Et donc, si cet homme est corrompu, si cet homme est découragé, si cet homme est désobéissant, Satan a gagné. Il va viser la tête, hein. Et la tête, à cette époque-là, c'était le souverain sacrificateur. Et bien sûr, Josué était un homme imparfait, avec des péchés. Et donc, Satan vient l'accuser en disant, « Ah, ben voilà, ton souverain sacrificateur, regarde, hein, il est imparfait, il a tel péché, parce que Satan connaît bien nos péchés et nos faiblesses. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va être l'avocat à nouveau. Christ va être là comme avocat pour défendre Josué. Verset 3, Josué était couvert de vêtements sales, hein, son péché. C'est une image. Il se tenait debout devant l'ange, l'ange de l'Éternel. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales !» Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. C'est Christ, notre avocat, qui est déjà là, qui plaide pour Josué, le souverain sacrificateur, qui dit « Effacez son péché, ôtez-lui ses vêtements sales. » Et c'est merveilleux déjà, dans l'Ancien Testament, combien de fois on voit cette image du pardon. Nous sommes pécheurs, on ne peut pas enlever nos vêtements sales, on ne peut pas se laver spirituellement. On peut se laver physiquement, on peut prendre sa douche, on peut se frotter, très fort même, hein, avec du détergent. Mais l'âme, il n'y a pas de détergent qui peut la laver. Il n'y a que le sang précieux de Christ. Et Christ est là en tant que l'ange de l'Éternel. Et il plaide, il défend Josué. Il dit, Satan, tais-toi, l'Éternel te réprime. Et le Seigneur l'a écarté pour un temps. Et Josué a pu jouer son rôle de souverain sacrificateur. Voilà les leçons spirituelles qu'on peut tirer de ces chapitres. Le Seigneur est juste et saint, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est compatissant, le Seigneur châtie son peuple, mais le Seigneur aime quand il a choisi, hein, il nous aime pour l'éternité, il ne nous abandonne jamais, il choisira encore Jérusalem, et le Seigneur aussi nous défend contre les attaques de Satan. Et avec cela, eh bien, louons le Seigneur, éloignons-nous de Babylone, comme dit l'Apocalypse aussi, hein, l'esprit de Babylone, et approchons-nous du Seigneur. On va prier.